Bonjour, le 10-10 aujourd'hui est consacré à un sujet bien particulier, c'est l'endométriose. Nous sommes dans le mois de la lutte contre le cancer, en particulier le cancer du sein. On va voir si c'est un rapport. J'ai avec moi deux invités, Christine Triboulet, fondatrice et vice-présidente de l'association Endozen, et Manon, qui elle, Manon Armand-Terrasse, je le prononce bien j'espère, qui elle est patiente et partenaire. Voilà. Donc, nous allons parler d'endométriose aujourd'hui. Je voulais déjà savoir ce que c'était que l'endométriose. Qui veut nous donner la définition de cette... C'est une maladie ?
Oui, c'est une maladie. C'est une maladie chronique, inflammatoire, qui va toucher plusieurs systèmes dans le corps. Donc, on va parler de maladie polysystémique. Et cette maladie a un caractère hormonodépendant, un caractère génétique. Les gènes de l'endométriose ont été identifiés. Et un caractère également immunitaire, c'est-à-dire qu'il y a une altération de l'immunité. Voilà, c'est une maladie qui est augmentée par les problèmes environnementaux également.
Alors c'est très complexe parce que quand on commence à parler effectivement d'hormones, quand on commence à parler de génétique, quand on commence à parler de tout ce qui peut provoquer cette maladie, on s'aperçoit que les causes sont multiples, on va peut-être les prendre une par une.
Oui, alors sur les causes, on n'a pas identifié une origine unique de la maladie. Il y a plusieurs théories quant à comment la maladie va se déclencher, pour quelles raisons. Aucune théorie à elle seule n'explique cette pathologie. C'est pour ça qu'on parle de l'ensemble de ces facteurs, qu'on ne peut pas les dissocier et qu'ils vont tous avoir un impact les uns avec les autres. Sur le caractère inflammatoire, on va avoir une inflammation très spécifique qui va impacter tout le petit bassin, tous les organes du petit bassin, ce qui va provoquer des symptômes très variés qui va sortir du cadre gynécologique parce que ça peut toucher tous les organes internes, le système digestif, le système urinaire, le système nerveux central. Ça peut monter parfois jusqu'au diaphragme et au système pulmonaire. Donc c'est pour ça qu'on parle de cette maladie systémique et tous ces facteurs ensemble, puisque par exemple les facteurs environnementaux qui vont être l'alimentation, qui vont être la qualité de l'air, qui vont être l'exposition aux polluants, aux perturbateurs endocriniens, vont avoir une action d'aggravation. On ne sait pas s'ils peuvent être liés à la causalité, c'est-à-dire au déclenchement de la pathologie, mais on sait déjà qu'ils ont en tout cas un impact aggravant sur les lésions, sur l'inflammation, sur le stress et pas mal d'autres choses.
Alors, il y a des causes qui peuvent être gérées. Quand on parle, par exemple, de la génétique, ça, non, c'est la génétique. Mais en revanche, quand on parle des hormones, on sait qu'il y a eu beaucoup de progrès en termes de médicaments, de possibilités d'abord de faire une analyse de ce qui se passe mal avec les hormones et ensuite peut-être de trouver des palliatifs ou des choses qui permettent d'arranger un peu les choses.
Alors, on va avoir un traitement qui est purement symptomatique et le traitement hormonal, il vise à empêcher le déclenchement des règles, dans ce qu'on appelle l'aménorrhée thérapeutique, pour empêcher l'inflammation qui va se produire par le saignement des lésions d'endométriose au moment des règles. Néanmoins, ça représente qu'une petite partie, entre guillemets, du problème, l'objectif étant d'essayer d'empêcher une certaine progression de la maladie et d'essayer d'empêcher les douleurs très caractéristiques de la période des règles. Toutefois, ça ne guérit pas la pathologie. Il y a quelques traitements pour les douleurs, mais là encore, au fur et à mesure des connaissances, on va en éliminer certains, en privilégier d'autres. Donc, il y a les traitements de crise et il va y avoir tous les traitements de fond où on va utiliser des médicaments qui sont hors autorisation de mise sur le marché, comme par exemple certains antidépresseurs et certains antiépileptiques qui servent à traiter la douleur chronique ou l'hypersensibilisation, les douleurs neuropathiques très caractéristiques de l'endométriose. Donc on a effectivement des thérapeutiques médicamenteuses et à côté de ça, des thérapeutiques non médicamenteuses qui, elles, vont avoir un impact véritablement sur la qualité de vie et l'amélioration du quotidien des patientes. La maladie reste quand même possiblement évolutive, même sous traitement hormonal.
Vous avez parlé aussi d'intervention de tout ce qui peut être environnemental. Donc on pense tout de suite à la pollution dans ce cas-là, mais vous avez parlé de l'alimentation, etc. Ça fait partie des choses. Est-ce que c'est des choses que vous qu'on peut gérer quand on est malade? La qualité de l'air, non, mais peut-être l'alimentation, il y a peut-être des possibilités encore d'essayer de diminuer un tout petit peu l'impact de cette maladie ?
Oui, mais ça va dépendre aussi de l'accessibilité, des moyens financiers, de l'accessibilité à l'information et les moyens financiers pour mettre dans l'alimentation anti-inflammatoire, qui va passer par les fruits et légumes bio, qui ont un certain coût, qui va passer par l'évitement des produits industriels, donc faire maison, ça demande aussi d'avoir du temps, ça demande d'avoir du matériel, donc c'est toute une problématique au-delà des possibilités de ce sur quoi on peut agir. Il y a toute cette problématique d'accessibilité financière, géographique, d'avoir un magasin bio à proximité, etc.
Alors, si on parle de l'endomètre, on va en dire un mot quand même, parce que c'est lui la cause finalement de toutes ces maladies. C'est ce qui fait que les choses se passent pas bien. C'est parce que l'endomètre n'est pas sain, qu'il est trop épais, que non, pas du tout. Alors là, je pose la question à Christine Triboulet.
Alors, pendant longtemps, on a dit que l'endométriose, c'est une maladie qui était liée à l'endomètre, aux cellules de l'endomètre qui sortaient de l'utérus par les trompes et qui allaient s'implanter ailleurs.
On va peut-être dire ce que c'est que l'endomètre, d'ailleurs, parce que tout le monde ne le sait pas forcément.
L'endomètre, ce sont les cellules qui tapissent l'intérieur de l'utérus et cette partie qui va s'épaissir pour accueillir une nidation si une grossesse débute, ou c'est cette partie qui est éliminée lors des règles s'il n'y a pas de fécondation. Donc l'endomètre, en fait, c'est bon, voilà, saigne, c'est normal. Et normalement, quand il sort par les trompes, ce qui est le cas de plus de 90% des femmes, donc. Voilà, 90% des femmes n'ont pas d'endométriose, mais normalement, il est éliminé par le système immunitaire. Mais il existe des cellules qui sont pathologiques, qui ressemblent à des cellules endomètres et qui vont s'implanter ailleurs, mais qui parfois sont déjà là, en fait. Elles ne viennent pas forcément de l'utérus, elles sont déjà là au niveau du péritoine, cette tunique qui enveloppe les viscères. Elles peuvent déjà être là au niveau du système urinaire, au niveau du diaphragme, partout dans le corps. On a même décrit des lésions au niveau des glandes lacrymales, voire même du cerveau. Donc, c'est des cellules qui sont déjà là et qui, à un moment donné, parce qu'elles sont soumises à des œstrogènes, et elles vont se mettre à saigner au moment des règles.
C'est pour ça qu'on fait toujours le lien entre l'endométriose et les règles. Mais ce lien existe, en fait, même s'il passe par tout un tas d'autres vecteurs.
Mais certaines patientes atteintes d'endométriose n'ont jamais eu de douleur, n'ont pas de douleur de règles. Il n'y a pas de corrélation entre les lésions d'endométriose et la douleur. Certaines personnes vont découvrir qu'elles ont de l'endométriose parce qu'elles ont des problèmes de fertilité, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes atteintes d'endométriose. Mais voilà, il n'y a pas forcément de corrélation. Il y a des personnes qui n'ont aucune douleur et d'autres qui, pour une lésion minime, voire invisibles à l'imagerie, vont souffrir le martyr et n'être soulagés par rien.
Alors, on sent bien que c'est un sujet extrêmement complexe. On sent bien que faire un diagnostic n'est pas simple, que parfois ça peut prendre plusieurs mois, voire années, tout en sachant qu'on parle énormément maintenant de l'endométriose, qu'on ne faisait pas autrefois. C'était classé dans d'autres types de maladies. Voilà, on disait, bon, elle est fatiguée, elle a toujours quelque chose. Elle est hystérique, oui, ça va bien aux femmes, voilà. Mais en réalité, c'est pas du tout facile de faire un diagnostic.
Actuellement, il y a un consensus sur le diagnostic. Déjà, on va déjà se baser sur les signes cliniques. Donc, les signes cliniques sont, on en relève 5. Donc, les douleurs de règles, les douleurs urinaires, des douleurs à la défécation, des douleurs pelviennes chroniques et des douleurs profondes pendant les rapports. Quand les patientes décrivent déjà une partie de ces signes, on peut présupposer, si on les a écoutés. Donc là, il y a tout un problème d'information aussi du monde médical. Si on les écoute, si on prend le temps de les écouter, on peut déjà présupposer qu'elles ont une endométriose et déjà mettre en place un traitement, comme disait Manon tout à l'heure, un traitement peut-être hormonal si elles sont d'accord pour stopper les règles. C'est quand même le saignement qui fait mal, qui crée de l'inflammation, et mettre en place un traitement antalgique. C'est une douleur qui est totalement inutile, donc, et qui, à la longue, risque aussi de sensibiliser les patientes, de déclencher une sensibilisation centrale. Donc, il faut absolument arrêter cette douleur. Donc, souvent, voilà, il faut déjà écouter les patientes et se baser sur les signes cliniques. Ensuite, viendra l'imagerie. Donc, l'imagerie, il y a deux types d'imagerie. Il y a les échographies endopelviennes. Donc, ce sont des échographies qui sont faites par une sonde endovaginale.
Généralement, c'est le médecin généraliste ou le gynécologue qui a la puce à l'oreille et qui décide de faire faire ces examens-là pour avoir une confirmation de diagnostic.
Tout à fait, tout à fait. Mais il est important quand même que tous les professionnels de santé soient formés sur cette maladie pour pouvoir aussi avoir la puce à l'oreille, comme vous dites, et conseiller à leurs patientes, même si elles viennent les consulter pour autre chose, de consulter un spécialiste.
Ou au moins vous interromps encore, est-ce qu'ils sont formés pour ça, les médecins ?
Pas encore, enfin un petit peu.
Pas tous.
C'était une bonne question.
Et donc en fait, plus on en, il faut en parler. On passe notre temps nous dans le sein des CPTS à faire de la formation. Enfin, on organise beaucoup de, on participe à beaucoup de sessions de d'information. Et donc l'imagerie. Donc il y a l'imagerie, l'échographie qui doit être faite par un radiologue expérimenté et spécialisé en endométriose. Tous les radiologues qui font des échographies ne savent pas diagnostiquer une endométriose. Donc, il existe pour ça des réseaux qu'on peut retrouver sur le site de la filière Endoccitanie, entre autres. Et ensuite, il y a les IRM qui doivent être aussi faits avec certains protocoles et dans des lieux très formés et surtout être lus par des personnes formées. En sachant qu'une imagerie négative n'exclut pas une endométriose. On peut, en fait, ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Donc, il faut vraiment répéter ça aux patientes. Si on leur dit « il n'y a rien », en fait, c'est faux. On peut juste dire « on ne voit rien ». Donc voilà, ça, c'est le diagnostic qui est posé actuellement principalement comme ça.
Comment la patiente qui, elle, a quelque chose et qui sait qu'elle a quelque chose, même si ce n'est pas une endométriose, peut insister en disant « mais attendez, moi, j'ai mal ».
Si elle n'obtient pas d'écoute de la part des soignants qui la suivent habituellement, elle peut s'adresser à la filière Endoccitanie ou CPTS, qui sont les communautés de professionnels de santé territoriales. Il y en a plusieurs sur Montpellier. S'adresser aux associations de patientes pour être orientée vers des professionnels de santé qui sont formés à ces pathologies, à l'endométriose et à d'autres pathologies, pour pouvoir justement faire ce diagnostic différentiel. Si ce n'est pas l'endométriose, on va quand même investiguer pour savoir qu'est-ce que c'est. Donc, la patiente peut rechercher par le biais des répertoires, être conseillée, orientée. C'est un petit peu ce qu'on fait aussi avec l'association EndoZen, c'est ce qu'on appelle la coordination. C'est qu'on va orienter de manière, on le fait de manière informelle, on va orienter les patientes vers des professionnels spécialistes, vers des sages-femmes qui peuvent effectuer le suivi des sages-femmes qui font partie des professionnels de premier recours, ce qu'on appelle, avec les généralistes qui sont formés. Après, il y aura des professionnels de deuxième recours, de deuxième intention. On va retrouver les gynécologues médicaux, les médecins plutôt cabinet de ville. Et après, sur les troisième intentions, les centres un petit peu plus experts, comme le CHU de Montpellier ou d'autres centres ou cliniques, où on va retrouver un ensemble de professionnels très spécialisés qui vont traiter des endométrioses, des situations en tout cas beaucoup plus complexes, où les premières, en tout cas les premières intentions médicamenteuses ont peut-être échoué ou n'ont pas été suffisantes. Et donc, on va accompagner les patientes à évoluer comme ça dans le parcours de soins, au test aussi des différentes thérapeutiques qui vont leur être proposées.
Alors, nous avons déjà beaucoup d'éléments d'information dans cette première partie. On va faire une toute petite pause musicale, on va respirer et on va ensuite voir pourquoi on parle beaucoup de l'endométriose aujourd'hui. Deuxième partie de cette émission, nous parlons d'endométriose aujourd'hui avec Christine Triboulet, fondatrice et vice-présidente d'EndoZen, et avec Manon Armentera, cette fois-ci je prononce mieux votre nom, excusez-moi pour tout à l'heure, vous êtes patiente mais partenaire sur toute cette association. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'endométriose actuellement, beaucoup plus qu'autrefois. On parlait peut-être autrefois que d'hystérie. Maintenant, on s'est aperçu quand même qu'il y avait autre chose que ça. Comment ça se fait justement ? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui sont touchées ? Ou est-ce que tout simplement, il y a des progrès qui ont été faits ? Il y a une prise en compte qui ne se faisait pas autrefois, qui se fait aujourd'hui ?
Alors, c'est un petit peu tout ça. L'endométriose est documentée depuis l'Antiquité. C'est pas une pathologie qui est documentée que depuis récemment. Néanmoins, effectivement, les connaissances ont commencé à évoluer, on va dire, au courant des 50 dernières années. Et il y avait aussi la problématique qu'il s'agit d'une pathologie exclusivement féminine. Donc, il y avait une non-prise en compte, une non-prise en considération des difficultés, des souffrances vécues par les femmes, donc toute cette hystérisation de la femme. Mais comme on l'a dit en fait en début d'émission, L'endométriose a aussi des facteurs environnementaux. Et les rythmes, les modes de vie d'aujourd'hui vont faire aussi que la pathologie peut-être va s'aggraver, qu'il va peut-être y avoir beaucoup plus de personnes touchées. C'est encore à l'heure d'aujourd'hui difficile à déterminer précisément, mais c'est une hypothèse qui est fortement avancée. Donc on en parle aussi beaucoup plus parce que depuis plusieurs dizaines d'années, les associations de patients, que ce soit pour l'endométriose ou toute autre pathologie,
dont en douzaine,
ont pris énormément de place au niveau des politiques de santé et ce qu'on appelle aussi... en représentation et en militantisme, entre guillemets, pour la protection des patientes et la reconnaissance de ces pathologies. Donc les associations ont fait beaucoup, beaucoup de choses pour que cette pathologie soit de plus en plus entendue, connue. Et ça a été repris ces dernières années par les médias, notamment, et surtout sur les réseaux sociaux, puisque c'est une pathologie qui touche énormément de femmes. Hein, on peut dire entre 1 à 3 femmes sur 10. C'est encore difficile à déterminer précisément. Donc ça représente 3 personnes menstruées, je devrais dire plutôt. Donc dès les premières règles jusqu'à la fin de vie, en fait, il n'y a pas véritablement d'arrêt à cette pathologie. Donc,
la ménopause ne change rien ?
La ménopause, ça va être assez particulier. Il peut y avoir des symptômes qui vont perdurer au-delà de la ménopause et des problématiques au-delà de la ménopause.
Mais ça se calme un peu quand même au moment de la ménopause ?
Pour 80% des patientes, mais il reste les 20%.
Donc, j'évoquais tout à l'heure le problème hormonal en disant que ça pouvait être traité. On a fait beaucoup de progrès en la matière, mais il y a d'autres moyens. Il n'y a pas que le traitement médicamenteux.
Alors, en fait, comme c'est une maladie chronique, en fait, ce qui est important aussi, c'est pour toutes ces patientes, c'est d'avoir une prise en charge non médicamenteuse. Par prise en charge non médicamenteuse, qu'est-ce qu'on entend ? On entend tout ce qui va être kinésithérapie, parce que les kinésithérapeutes qui sont formés, certains sont formés à la prise en charge de cette pathologie, donc peuvent beaucoup améliorer la qualité de vie des patientes. Il va y avoir diététicienne, naturopathe, toutes les activités physiques comme yoga, pilates, activités physiques adaptées, l'ostéopathie, toutes les techniques d'apaisement du mental, puisque on sait que si on arrive à apaiser le mental, on diminue le taux d'inflammation, puisque le stress est un énorme caractère inflammatoire. Donc sophrologie, hypnose, méditation.
Alors ça vient effectivement avec les 50 ou 60 dernières années, parce que avant on ne parlait pas de toutes ces méthodes-là, on était beaucoup plus rude, je trouve, au niveau des techniques de.
Par contre, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur la qualité de formation de tous ces professionnels non médicamenteux, parce qu'on ne s'invente pas. On n'invente pas une prise en charge de l'endométriose. Il faut connaître la pathologie, il faut connaître ses limites. Il ne s'agit pas du tout de s'opposer au traitement médicamenteux. Au contraire, c'est d'être à côté, d'accompagner les patientes et d'avoir une éthique. On ne peut pas raconter n'importe quoi. On parlait tout à l'heure, Manon évoquait les réseaux sociaux. On entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui abusent de la vulnérabilité des patientes. Donc il y a beaucoup d'argent en jeu. Et il faut vraiment être très prudent avec tous les remèdes miracles, toutes les solutions miracles.
Comme on trouve pour tout un tas de maladies.
Tout à fait. Et donc, dans cette prise en charge de médicaments, c'était quand même ce qui était à la base de la création d'Endozen.
Alors justement, on en vient à la création d'Endozen. Elle me fait des transitions formidables, Christine. Elle devrait faire de la radio. Alors, cette association existe depuis combien de temps à Montpellier? Et qu'est-ce que vous y faites? Comment elle s'est créée? Comment elle est composée? Parce que vous n'êtes pas que des bénévoles. Vous êtes de nombreux bénévoles, mais certains ont des spécialités.
Tout à fait. Alors, en fait, avant de parler de la création d'Endozen, je voudrais juste expliquer le contexte dans lequel elle s'est créée. En fait, il existe à Montpellier, au CHU, un programme d'éducation thérapeutique du patient dédié à l'endométriose. Donc, c'est le premier programme d'ETP, éducation thérapeutique du patient, endométriose, qui a été créé en France. Donc à l'initiative du CHU de Montpellier et de l'association EndoFrance. Maintenant, il existe des programmes ETP partout en France. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au sein de ce programme d'éducation thérapeutique ? Donc, il est ouvert à toutes les patientes, suivies ou pas au CHU. En fait, on organise des ateliers, des journées d'information pour permettre aux patientes d'intégrer des connaissances et des compétences pour mieux vivre avec leur maladie. pour qu'elle soit au centre de leur prise en charge. Et donc, au cours d'un de ces ateliers, une patiente fait la remarque, c'était très intéressant, mais vers qui se tourner ? Les médecins sont plutôt identifiés, mais toutes les techniques non médicamenteuses, vers qui se tourner ? Et elle a aussi évoqué le coût de ces soins.
Donc, à qui faire confiance et pour combien ?
À qui faire confiance et pour combien ? Donc, c'est à ce moment-là, donc c'était en 2020, juste avant le premier confinement, qu'est née l'idée d'EndoZen, c'est-à-dire créer un réseau qui regrouperait et des patientes et des professionnels, certaines professionnelles elles-mêmes concernées par la pathologie. Et donc, dans ce réseau, les professionnels seraient identifiés, formés. On pratiquerait des tarifs solidaires pour ceux qui sont non conventionnés et surtout respecterait un cadre éthique de fait de leur formation et de leur engagement dans l'association. Donc cette association est née, l'idée est apparue en février mars 2020 et les premières adhésions ont commencé en 2021.
Donc l'objet, ça n'est évidemment pas de remplacer les médecins ni le terrain médical, mais c'est d'accompagner par différents moyens, avec différentes techniques, avec donc différents intervenants, les patientes diagnostiquées, je suppose.
Oui, tout à fait. Donc l'idée, ça a été de rassembler déjà des professionnels du soin de support, entre guillemets, des techniques non médicamenteuses de confiance, formés à l'endométriose, informés à tout l'enjeu et toute la problématique autour de l'endométriose. Donc ça, c'est Christine et les autres fondateurs et fondatrices, parce que vous étiez plusieurs, qui ont commencé ce petit réseau de professionnels, certains étant des professionnels de santé et des professionnels de soins de support, d'autres étant que des professionnels du bien-être. Et l'idée étant d'effectuer cette prise en charge en parallèle, main dans la main, avec les équipes soignantes, avec les gynécologues généralistes. Donc, petit à petit, le réseau s'est étoffé au fur et à mesure que l'association a commencé à être connue et s'est développée. Notre éthique continue d'être développée perpétuellement en fonction des retours, en fonction de l'évolution de ce qui se fait dans la société, des politiques de santé, etc. Et donc, on a réussi à mettre en relation des patientes avec ces professionnels et EndoZen maintenant et aussi, a aussi pris en charge tout ce qui était information, sensibilisation de manière plus générale, repérage dans la population générale, sur tout le secteur de Montpellier, même un petit peu plus au-delà, dans le Gard et dans l'Hérault, et a également cette action aussi auprès des professionnels, qui est d'aller à la rencontre des professionnels du soin et du bien-être pour éventuellement les former, pour les informer sur la pathologie, etc.
Donc, vous avez un répertoire, j'allais dire, de professionnels sérieux, dont vous connaissez les compétences, que vous pouvez fournir aux patientes.
Oui, tout à fait. Alors, nous avons un répertoire on a environ 50 professionnels adhérents à l'association. Actuellement, on est à 250 adhérents, donc patientes et pros compris. On a aussi des conjoints, des conjointes et certains parents, surtout des mamans.
Oui, les papas, non, toujours pas.
Les plus jeunes, on en a eu, mais bon, ça va, ça vient, les adhésions, voilà, les papas sont moins investis. Mais c'est plus par manque de... Je pense qu'ils n'osent pas, en fait, peut-être. Donc on a ce répertoire. On essaye aussi de... Donc ce sont des pros qui s'engagent à faire des tarifs solidaires. Mais dans notre répertoire, dans nos adhérents, nous avons aussi des médecins, kinés, donc qui, eux, sont conventionnés. Et on a également un autre répertoire, c'est de professionnels qu'on a référencés, qui ne sont pas forcément adhérents de l'association. Donc, on va avoir des sages-femmes, des gynécologues, des radiologues, gastrologues, psychologues, voilà.
Donc, tout de suite après la pause musicale, on va continuer cet entretien. Et il va nous rester quelques minutes quand même. On a gardé quelques minutes pour la fin. On va voir un petit peu ce que vous faites, vous, dans cette association et surtout les événements que vous organisez de façon effectivement à sensibiliser toujours plus sur cette maladie qu'est l'endométriose. Toujours avec Christine Triboulet, toujours avec, donc toujours fondatrice et vice-présidente, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, de l'association Endozen, toujours avec Manon Armenteras, ça y est, je commence à rentrer votre nom dans ma tête, qui est patiente et partenaire. Bon, cette association, au-delà du fait qu'elle a un répertoire, au-delà du fait qu'elle apporte beaucoup d'informations aux femmes qui trouvent l'association tout simplement sur Internet, puisque vous avez un site, vous faites aussi des événements et des choses qui permettent encore de mettre finalement dans l'actualité cette maladie qui fait souffrir tant de femmes. Donc, pour il y a un mois de l'endométriose, non d'ailleurs ?
Oui, il y a le mois de mars est dédié à la lutte contre l'endométriose. Donc, il y a énormément d'événements en France et donc sur Montpellier, avec pas mal de partenaires institutionnels comme le CHU de Montpellier, les cliniques, le centre de PMA, les différentes CPTS. Néanmoins, avec Endozen, on effectue ce type de journée de sensibilisation, d'information, de repérage. On en fait toute l'année avec ces différents partenaires, un petit peu partout, parfois dans les quartiers prioritaires, des fois ça peut se faire au polygone. Ça peut se faire sur les journées de dépistage de santé des femmes. On va avoir les journées de dépistage du cancer du sein avec la mammo mobile. Donc, on fait partie de l'unité mobile de dépistage de Montpellier.
Est-ce qu'à l'occasion d'ailleurs de ces dépistages du cancer du sein, par de l'endométriose, est-ce que vous avez donné, je ne sais pas, un petit fascicule, quelque chose qui serait distribué au moment où on fait... Personnellement, je fais des mammographies régulièrement. Jamais on ne m'a donné quoi que ce soit sur l'endométriose. Peut-être qu'on ne me sentait pas concernée du tout, c'est ce qui est le cas, mais quand même.
En fait, le jour des, lors de ces journées de dépistage, en fait, on a souvent un stand à côté des stands de dépistage du cancer du sein. Donc après, voilà, après c'est parfois quand on vient faire son dépistage, on regarde pas forcément autour ce qui se passe, mais en général, on est présent.
Avec un ruban d'une couleur particulière, non, vous n'avez pas votre ruban rose, vous ?
C'est le ruban jaune, mais au-delà de ça, nous, par exemple, on n'a pas le jaune dans nos couleurs d'Endozen. Il y a beaucoup le rose qui revient aussi, puisque c'est la couleur des tissus, couleur de l'utérus, de la chair. Mais après, au-delà des journées d'information, de sensibilisation, on fait aussi des sessions d'information en visio sur Internet pour faciliter l'accès, par exemple, aux personnes qui sont un petit peu en dehors de Montpellier ou qui auraient des difficultés à se déplacer. On va être présent aussi sur les réseaux sociaux pour relayer ça, relayer ces journées. Et après, on va rentrer dans la deuxième partie, entre guillemets, de notre travail en douzaine, qui est l'organisation des ateliers. Là, on est plus sur la partie prise en charge des patientes, tous ces ateliers de soins de support qu'on organise à petit tarif, que ce soit sur Montpellier ou en visio. Donc on va avoir, moi je suis aussi professeure de yoga, j'organise des ateliers de yoga-thérapie, on a des ateliers de sophrologie, on va avoir des ateliers donc, de plein de pratiques psychocorporelles, d'activités aussi culturelles, des groupes de parole, de mise en lien entre patientes, avec les conjoints et les conjointes, avec les familles.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'effectivement, l'endométriose, ce sont des douleurs, mais ça impacte tout le quotidien des femmes, du matin jusqu'au soir, jusque dans la nuit, si toutefois on ne fait l'amour que la nuit. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette partie-là, la partie sexuelle, qui est compliquée.
Oui, et puis même au-delà de la partie de la sphère gynécologique, c'est pas que des douleurs, ça va être des troubles digestifs, des troubles urinaires, des troubles dépressifs, des troubles anxieux. Donc on a énormément de troubles systémiques et fonctionnels qui vont avoir un impact sur la qualité de vie et qui vont avoir une répercussion sur l'ensemble de la famille, sur l'ensemble du cercle social. Il y a beaucoup de personnes qui finissent en isolement social parce qu'elles ne peuvent plus participer aux soirées avec leurs amis, parce qu'elles ont du mal à se déplacer, elles vont avoir du mal à travailler. Donc, on organise aussi des ateliers pour expliquer comment mettre en place des solutions au travail, comment demander des adaptations de poste, comment faire des dossiers de demande de RQTH. Et on va bien évidemment avoir des ateliers de sexothérapie, on va avoir des ateliers axés sur la psychoéducation, sur le développement des compétences psychosociales. Et un petit peu, on utilise des techniques d'éducation thérapeutique dans tous ces ateliers.
Est-ce que les femmes osent parler de ça maintenant ? Parce que c'est vrai que ce sont des douleurs, mais que généralement, on est un peu habitué à taire tout ça, en disant bon, c'est la vie, c'est comme ça.
De plus en plus, on entend beaucoup de personnes célèbres en parler, donc ça permet aussi de démystifier, d'oser exprimer ces douleurs. Le problème, c'est qu'on leur a tellement dit, elles ont tellement entendu des réponses médicales en disant « mais oui, mais les douleurs de règles, c'est normal, douleurs pendant les rapports, c'est normal, c'est parce que vous êtes stressée, toutes les femmes ont ça, prenez un anxiolytique ou buvez un verre, ça ira mieux ». Donc, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui ont eu du mal à en parler. Mais actuellement, on voit les jeunes, les lycéennes, les étudiantes qui sont très informées et qui n'acceptent plus ce discours. Et effectivement, on en parle de plus en plus. Et puis surtout, moi, ce que je voudrais évoquer, mais Manon va le développer, c'est le rôle des patientes partenaires. Parce que ce sont des patientes qui sont diplômées, qui ont fait un diplôme universitaire et qui ont un rôle très important dans le fait de relayer l'information.
Et le fait qu'elles l'ont vécu dans leur chair.
Tout à fait. Mais je pense que Manon...
Alors Manon, depuis le début, je dis effectivement que vous êtes patiente partenaire. Donc là, on va s'adresser à la partenaire. Patiente.
Alors, patiente partenaire, c'est un terme qui va recouvrir plusieurs métiers, plusieurs activités. Avant, on parlait beaucoup de patiente expert. Désormais, on parle plus de patient partenaire parce que dans le partenariat, ce qu'on appelle le partenariat en santé, qui est la mise en œuvre de la démocratie sanitaire et des politiques sanitaires de santé publique qui vise à l'empowerment des patients, à intégrer tous les usagers, tous les patients dans toutes les sphères du système médical, que ce soit dans la relation patient-soignant, dans son propre parcours de soins, mais aussi dans les équipes justement d'éducation thérapeutique. Dans un programme d'éducation thérapeutique, il y a obligatoirement une patiente partenaire pour obtenir les financements de l'ARS. Il va y avoir aussi des patients partenaires qui vont travailler dans la recherche. Pareil, il y a des recherches participatives avec des financements pour les recherches qui vont intégrer les patients, justement. Donc, on va intégrer tous les savoirs des patients à différents niveaux, dans plein de domaines et de métiers différents du système de santé.
Il ne s'agit pas que de témoignages, ce sont des savoirs.
Il y a tout un ensemble de savoirs expérientiels qui ont été acquis au fur et à mesure de l'expérimentation de la vie avec la maladie. Et les patients ont aussi beaucoup tendance à s'informer sur leur propre pathologie et à détenir beaucoup de savoirs, entre guillemets, théoriques qui peuvent aussi transmettre, que ce soit à des patients ou même à des soignants qui n'auraient pas ces savoirs. Donc, on a un partage qui va se faire aussi, comme vous le disiez, par le témoignage. Et ce témoignage, il est très important puisque les patientes partenaires peuvent être aussi des formateurs, formatrices, notamment à la faculté de médecine auprès des jeunes médecins. Les témoignages sont très intéressants en ce sens qu'ils vont montrer l'expérience des entre guillemets, anecdotes qui ont été vécues dans le système de santé, qui ont été vécues à différents niveaux avec différents types de professionnels. Donc, ça permet non seulement de sensibiliser les professionnels qui vont prendre en charge demain ces patientes, mais ça permet aussi d'apporter un autre regard dans leurs études, ne pas avoir que ce regard, entre guillemets, froid, très technicien.
Théorique.
Avoir effectivement l'expérience et le vécu de la patiente et tout ce qu'implique le soin derrière. Le temps du soin n'est pas du tout le même temps pour les patientes. Quand on parle, ça nous arrive en séminaire, en congrès, quand on parle des différentes thérapeutiques, des différents médicaments qu'on peut essayer, entre nous, ça passe très très vite. En 10 secondes, on a fait toute la liste, sauf que dans le temps de la patiente, ça va prendre des années, voire des...
Elle va essayer différentes thérapies.
On parle beaucoup d'errance diagnostique, mais une fois que le diagnostic est posé, il y a encore souvent toute cette errance thérapeutique, ce qu'évoquait Manon, parce qu'il faut trouver ce qui va convenir à l'instant T à une patiente, que ce soit sur le plan antalgique, hormonal ou sur les techniques des soins de support, en sachant que ça va convenir aujourd'hui, mais peut-être que dans 2 ans, il faudra revoir tout ça. Donc ça, c'est aussi un temps qui est long, souvent.
On va donner les coordonnées de l'association, en tout cas les coordonnées du site, parce que je pense que ça sera la façon de mieux confirmer ce que vous nous avez dit et de prendre des renseignements éventuellement ou de vous contacter en cas de nécessité.
Oui, tout à fait. Alors, le site, c'est endozen.org.
Ça, c'est simple. endozen.org.
Et sur, on a une adresse mail qui est asso.endozen@gmail.com. Et on est aussi sur Instagram, endozen Occitanie.
On a dit tout à peu près, en tout cas l'essentiel. Vous pensez que, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose ?
En fait, je pense que ce qu'on organise au niveau de l'association, tous les ateliers qu'on organise sont ouverts à nos adhérentes, mais sont ouverts aussi à des personnes non adhérentes qui voudraient aussi découvrir l'association au cours d'un atelier. Donc, on a toujours des tarifs pour les non adhérentes. Et puis, on peut aussi répondre à des questions si les personnes ont des doutes sur leurs symptômes, en fait, les orienter vers les bonnes personnes, même si elles ne sont pas déjà diagnostiquées.
Et ce n'est pas forcément que des personnes de Montpellier. L'association a été créée à Montpellier, mais c'est étendu petit à petit. On a des partenaires, des professionnels, des adhérents dans tous les Raux, dans tout le Gard, et même maintenant dans toute la France, grâce à tout ce qu'on fait justement à distance, en visio.
Je remercie l'une et l'autre. Donc, je remercie Christine Triboulet et Manon Armand-Terrasse d'être venues aujourd'hui dans ce 10-10 pour nous parler de cette maladie si particulière, si compliquée, qu'est l'endométriose. Merci à toutes les deux. Au revoir.
Merci.
Bonne journée, au revoir.